Bienvenue en territoire mort-vivant.
Métal Europe, zone à déconstruire ou zone à déserter ?
Comment ne pas se sentir éloigné des zones à défendre quand on habite le Nord-Pas-de-Calais ? Le mot d'ordre trouve un intérêt dans les régions quelque peu préservées de l'agro-industrie et de la métropolisation, à Notre-Dame-des-Landes ou Roibon. Mais ici, quelle lutte de territoire menée quand plus un mètre carré n'était permis de la prédation marchande ? On aurait pu se rendre à Halluin, terre la plus polluée de France à la dioxine, à Dunkerque, ville aux 15 usines Seveso coupables pour moitié de la pollution atmosphérique de la région, à Boulogne-sur-Mer, championne de monde du concert. Nous avons préféré les alentours de Métal Europe. Symbole d'une industrie régionale déchue, l'usine métallurgique laisse pour tout héritage 1000 ans de mesures de survie. On dirait Fukushima. Interdiction de toute construction, élevage et culture d'aliments, obligation de décaisser les jardins et les champs. Objectivement, que reste-t-il à part déserter ? Exiger un cordon sanitaire, quelques rétributions financières et déconstruire notre plombophobie par l'aménagement paysager ? Ici comme ailleurs, 100 ans de production de richesses auront rendu un territoire invivable pour des siècles et des siècles.
Revenir 12 ans après la fermeture de Métal Europe est étrange. Pour certains, cette histoire est un souvenir vague que rappellent à peine les monuments à la gloire des métallos, ceux érigés sur les ronds-points à l'entrée des communes. Pour d'autres, les amiantés, les licenciés, le combat continue au prud'homme. L'inconscient régional garde pourtant Métal Europe comme le symbole d'une lutte ouvrière dont la « violence » était la réponse désespérée à celle des financiers. L'image reste dans les têtes. Des ouvriers cagoulés, montés sur des bulldozers, jettent dans la Deule les pelleteuses de la boîte et menacent de balancer les 600 tonnes d'acide séquestrées au titre de la guerre sociale. Ils exigent 50 000 euros pour préjudice moral. Pas cher payé. Le 1er mai 2003, en pleine bataille, les grévistes respectent une minute de silence à la mémoire de tous les ouvriers tués ici depuis 109 ans, décapités par les machines, pulvérisés par les explosions de fours ou brûlés vifs comme de l'amadou par les métaux en fusion. Ils se sont battus comme des chiens pour la thune et leur dignité. Et pour l'emploi ? Allez savoir. « Si tu continues comme ça, tu vas travailler à Métal Europe !» menaçait Pascal quand ses rejetons ramenaient de mauvaises notes. De 1894 à 2003, combien d'ouvriers ont bousillé leur santé et celle des riverains au profit de Malfinado, Penaroya, puis Métal Europe ? À l'initiative de quelques banquiers, dont le baron Rothschild, cette ex-première usine d'Europe pour le raffinage du plomb fabriquait aussi de l'argent, du zinc, du chrome et plus tard des schistes bitumineux, de l'indium, du germanium. Métal Europe, ce n'était pas une usine, c'était une cathédrale industrielle. Installée le long de la ligne de chemin de fer Paris-Lille, la première de France, et à deux pas des mines de charbon pour fondre les métaux, elle enverrait au chômage 100 ans plus tard 830 salariés et 1200 sous-traitants. Tous les bleds autour allaient être ébranlés, tellement leur destin était définitivement scellé à celui du patron. Évin Malmaison, Le Forest, Courcelles-les-Lances, Aubie, Dourges, Roust-Varandin, Flers-en-Escrebieux, Rimbaucourt. 12 ans après, que reste-t-il ? L'expression « patron voyou » inventée alors par Roselyne Bachelot. Un crassier de 3,2 millions de tonnes. 500 hectares pollués au plomb et 85 au cadmium. Des eaux souterraines à l'arsenic et au zinc. Des mesures préfectorales de survie. Une nature industrielle, scientifiquement gérée. Un taux de chômage à 18% et un Front national à 54%. S'il fallait rétablir la double peine, elle tomberait sur les patrons de Métal Europe, pour la mise au rebut, du jour au lendemain, d'ouvriers qui ont pourtant fait leur fortune, pour le dépotoir qu'ils laissent derrière eux. Chape de plomb sur une vie de poussière.
Enjambant le pont de la Deule pour arriver à Evin-Malbaison, l'automobiliste tombe sur un paysage désolant. Une carrière de gravat toxique dont la laideur seule devrait suffire à poursuivre les patrons pour atteinte au bien-être de l'humanité. Le site appartient désormais au groupe Cita et Ambre, spécialiste du traitement des terres polluées, activité d'avenir s'il en est. Mais les 30 hectares de l'ancienne Metal Europe ne se laissent pas découvrir si facilement. L'ensemble du site se cache derrière d'immenses buttes enherbées. Il faut se faufiler entre les barrières, escalader un terril, sentir le schiste couler dans ses pompes pour en tirer un cliché. Le cache-cache avec la pollution débute à peine. Nous avons rendez-vous avec l'élu à l'urbanisme. Dans les écoles et collèges, on repérait tout de suite les enfants d'Evin-Malbaison, se souvient-il. Le plomb rejeté par les cheminées provoquait retards mentaux, fausses couches, cancer et saturnisme dans des proportions nulle part égalées. Parfois, le matin, les carrosseries des voitures étaient piquées au plomb. Alors on allait voir Metal Europe, et ils nous payaient une nouvelle peinture, ajoute une institutrice. On obligeait les enfants à se laver les mains après la récréation, et la cour d'école était nettoyée tous les mois. La vie s'écoulait presque paisiblement, au rythme des dégazages et des alarmes incendies. Il a fallu qu'un éleveur de bovins s'inquiète publiquement de la mortalité de son cheptel, au début des années 1980, pour que des associations écologistes jettent leur nez dans les poussières. Le déni se rompt dans la douleur. Je me souviens de discussions publiques qui terminaient en bagarre avec les salariés et les syndicalistes, continue l'élu évinois. Les gens étaient contre les mesures de pollution, car Metal Europe était le seul employeur. Pendant l'occupation de l'usine, les ouvriers n'ont jamais eu autant de haine que pour les Verts, dirigés par Marie-Christine Blandin et accusés de faire le jeu des patrons. Aujourd'hui comme hier, tout pousse au refoulement des métaux lourds. Le cas est quasiment clinique. On sait qu'il y a pollution, mais on a déjà assez de problèmes comme ça, relativisent les habitants. Dans mon jardin, il y a eu des relevés et ça va, se satisfait un autre. L'Agence régionale de santé, bras sanitaire de l'État, n'établit pas de lien de causalité entre le plomb et le cancer. Le contraire lui en coûterait un de bras. Les propriétaires appréhendent une dévaluation de 30% de leurs biens. Les agriculteurs veulent vivre de leurs terres. Les pêcheurs croisés au bistrot continuent de manger leurs poissons. Les municipalités craignent que l'image de leur commune nuise à leur développement. Quant au président de Cœur de Fondeur, l'association des anciens métallos, il trouve le principe de précaution abusif et continue de défendre son usine à cancer. Dans les années 60, des personnes intoxiquées au cadmium avaient des insuffisances rénales. Mais plus aujourd'hui, il n'y a plus de raison que les gens arrêtent de manger les légumes dans leur jardin. Tout le monde sait que l'environnement est saturé en métaux lourds, mais l'économie a ses raisons que la santé ignore. Avec moi, le déluge. En 1906, la charte d'Amiens annonçait ainsi la double besogne quotidienne et d'avenir du syndicalisme. Viser la réalisation d'améliorations immédiates tout en préparant l'émancipation intégrale. Un siècle plus tard, et notre aliénation au capitalisme industriel achevée, cette vieille ligne de crête n'est plus. Défendre ses intérêts immédiats nuit parfois durablement.
L'administration paysagère du désastre ou la déconstruction de la morbidité. Depuis la fermeture de l'usine, le dépistage systématique et gratuit n'est plus. Les mesures d'hygiène ont disparu des écoles. Les résidents ont repris leur potager familial. Si les communes aux alentours de Metal Europe refont la une, c'est que la préfecture veut étendre le périmètre d'intérêt général. Le fameux PIG qui inquiète tant les habitants, les agriculteurs et les élus. D'après l'enquête préalable à cette délimitation des zones de restriction, les habitants de la zone 1 foulent une terre dont la concentration en plomb est supérieure à 1000 ppm et le cadmium à 20. Ils n'ont pas le droit de faire des travaux, de construire de nouvelles habitations, de produire et stocker des aliments. En zone 2, les concentrations sont deux fois moindres. Ils ont obligation de décaper les sols sur 50 cm, poser un film géotextile, apporter de la terre propre. Et la terre sale ? Elle sera confinée pour des siècles ou transformée en remblai de construction. Quant aux interdictions agricoles, elles s'étendent sur 700 hectares et concernent 36 exploitations. En réponse au désœuvrement, la mairie d'Evins prévoit d'installer une usine de méthanisation pour trouver des débouchés à des produits désormais impropres à la consommation humaine et animale. On fait électricité de tout aujourd'hui. À Evins, on n'a plus de légumes, mais on a des idées. Le problème de ces mesures est qu'elles sont aux frais du propriétaire, fustige le président de l'association pour l'intérêt général des Évinois. C'est pourquoi la jeune association entend faire appliquer le principe « pollueur-payeur », peine perdue d'avance tant le montage juridique de Metal Europe dilue sa responsabilité dans ses filiales. Resterait la responsabilité de l'État pour la mise en danger des populations. L'association ferraille alors contre l'attentisme des pouvoirs publics. Elle vient d'arracher à la mairie la tenue d'une réunion publique que la préfecture préféra déserter et pendant laquelle les élus admirèrent religieusement leur pompe. Tout au plus obtinrent-ils de la ville une motion réclamant à l'État qu'il prenne en charge le traitement des terres, le nettoyage des cours d'école, le dépistage systématique du saturnisme et les traitements médicaux. De leur côté, départements, régions et laboratoires de recherche expérimentent diverses impasses dans la gestion durable des sols pollués. Elles se divisent en deux écoles. La première, moins répandue, s'attelle à la phytoremédiation, la plantation d'espèces qui sucent le plomb de la terre. Experte dans la cogestion des territoires contaminés, l'association lilloise EDA enclenchait la manœuvre dès 2002 en partenariat avec Metal Europe. À l'époque, l'association Nord Nature dénonçait cette fumisterie. Elle estimait qu'au rythme d'extraction du plomb par les plantes, il faudrait attendre 10 000 ans avant que la terre soit saine. En fait, on est plutôt autour de 5 siècles. Et ce, sans solution quant aux récoltes plombées. Faut-il les confiner ou répandre leurs cendres contaminées ? Si les universitaires admettent que cette dépollution par les plantes n'est pas une solution, les industriels y trouvent un double intérêt. Économique d'abord. Le marché canadien, par exemple, croît de 10% tous les ans. Idéologique, surtout, la phytoextraction offre l'illusion que la nature est suffisamment résiliente pour accélérer la marche du progrès industriel. La deuxième école est plus réaliste en ce qu'elle prend acte de l'impossible disparition du plomb. On l'appelle phytomanagement. Les espèces métallicoles qui poussent dans les sols plombés fixent les poussières avant qu'elles ne s'envolent dans les branches des gamins ou n'atteignent les nappes phréatiques. Accompagné d'un agent du département, nous visitons le parc Perru-Dauby, un ancien terrain vague devenu modèle du genre. Certes, il est toujours saturé en plomb, mais son aspect est désormais bucolique et sa pollution créatrice de biodiversité. Les poussières ont été cachées sous un tapis de fleurs mauves, jaunes et blanches. So cute ! Comme le parc lui-même, le discours d'accompagnement est suffisamment fleuri pour masquer la réalité. Les acteurs de ce renouveau ont ambitionné de faire reconnaître par les habitants du quartier les pelouses calaminaires comme un patrimoine naturel et une partie du patrimoine de l'histoire industrielle du lieu. Patrimoine, certes particulier et encombrant, qu'il convenait de mieux connaître, de s'approprier, puis de protéger. Par la mise en fleur du plomb, le conseil départemental nous apprend à modifier en profondeur notre perception d'un espace très fortement pollué. Puisqu'il est vain d'assainir les sols, reste l'autopersuasion. Si on y croit très fort, que l'on dépose des cierges et qu'on déconstruit notre perception du plomb, peut-être se changera-t-il en or. On attend les sociologues postmodernes pour nous aider à déconstruire notre plombophobie, comme ceux d'Areva et EDF qui expliquent aux habitants de Tchernobyl que la santé n'est finalement qu'une donnée subjective. La visite du parc est d'ores et déjà au catalogue 2015 des rendez-vous nature. Aux riverains et aux services techniques de prendre soin de cette nature industrielle. Ne pas jouer dans la terre, ni manger les légumes du jardin. Ne pas faucher les espèces souhaitées, mais couper les nuisibles. Port du masque obligatoire. Ne pas répandre les tontes, ni jeter ses papiers par terre. Et espérer que l'information traverse les millénaires. La ville d'Oby rémunérait un médiateur chargé d'inculquer les consignes au quartier. Pour des raisons budgétaires, le poste a été supprimé. Zad, partout ?
Aucune solution n'est envisageable autre que de restaurer l'aspect paysager des espaces pollués, de les rendre à la distraction des riverains, d'attendre et d'espérer. Sinon, il faut partir. En 1997, lors de la première opération du PIG, des voix s'élevaient en ce sens. La seule option raisonnable serait de quitter les lieux, planter une forêt et attendre la dispersion du plomb au hasard de la vente des bois. En 1971, Guy Debord proclamait « la révolution ou la mort ». La révolution échouée, que peut-on dire dans un journal qui vise une émancipation débarrassée du pouvoir des technocrates ? Établir le solde coût-bénéfice du développement industriel nordiste ? Dans la partie bénéfice, 150 ans de labeur échangés pour toute récupération de sa force de travail avec des smartphones, deux bagnoles par foyer et 15 jours à Center Park. Dans les coûts, 1000 ans de biocides régionales sans compter les déchets radioactifs de Gravelines, comptés 1 million d'années. Nous pourrions ainsi intervenir en coach et faire de chaque problème une opportunité. Extraire les derniers euros possibles d'un modèle économique déchu par le tourisme industriel. Profiter béatement de l'idéologie paysagère qui prend racine sur les sites et cerveaux pollués. Faire de la morbidité une ressource par le développement des secteurs de la santé, de la dépollution, et de l'économie circulaire. Bref, atteindre le stade zombie du capitalisme par la production de survie économique sur la mort biologique des sols. Cette vie serait-elle pour autant digne d'être vécue ? La contrepartie implacable nécessiterait de tisser un filet de réglementation sanitaire et bureaucratique totalitaire et l'élaboration de seuils de pollution arbitraires. Ces solutions seraient moins étatiques et plus citoyennes, qu'elles pousseraient l'absurdité à gérer nous-mêmes le désastre, à s'auto-infliger des mesures de contrôle et de rétorsion, ainsi que le constat des observateurs du département de Fukushima. Après la vie de bagne industrielle, la vie de bagne sanitaire. Que faire alors du slogan « ZAD partout » si ce n'est le traduire par « Zona désertée » ? Dans quelques mois, les candidats aux élections régionales épandront leurs promesses d'un renouveau industriel. Il ne faut toujours pas désespérer Billancourt. Face au discours dégoulinant d'un positivisme niaiseux, que nous reste-t-il à part agir dans une pure négativité ? Non pas celle de l'imposture, mais celle dictée par une économie elle-même négation de l'espèce humaine. À coup sûr, nous passerons pour des rabat-joies. Auprès des gens, des élus, des techniciens, et même des militants radicaux pour lesquels il resterait des interstices à investir pour fissurer le système. Pour ne pas reproduire les erreurs passées, la question passe d'abord, et pour le moins, en soldant 150 ans de développement industriel. Ensuite, en exprimant notre refus de tout ce qui vient d'en haut. La troisième révolution industrielle, l'agrandissement des ports de Calais et Dunkerque, le canal Seine-Nord, le gaz de schiste et son alternative géothermique. Refus qui imposerait également la fermeture de Gravelines, des usines Seveso, d'Eura Technologies. Ce préalable est à ce point repoussant pour le commun des nordistes qu'il sabote d'ores et déjà la réussite commerciale de notre journal. Mais il apparaît nécessaire avant l'invention d'un monde vivable. Ailleurs. Pour terminer sur une note plus négative encore. Si la seule option raisonnable est de quitter le Nord-Pas-de-Calais, envisager de déplacer 4 millions de personnes devient tout à fait déraisonnable. Où irait-on ? Et pour vivre de quoi ? Avec la pollution, le capitalisme nous a peut-être définitivement aliénés à ses services, ses experts, sa bureaucratie, ses emplois, puisqu'il faudra gérer les terres polluées et les déchets nucléaires. Nous devons faire face à des problèmes dépassant à ce point nos capacités humaines de compréhension qu'une majorité d'exécutants entretiendra nécessairement une minorité de savants technocrates. Cet épais brouillard rejeté par 150 années d'un capitalisme globalement ravageur a obscurci l'horizon de sorte que le sursaut et la créativité nécessaires à notre émancipation sont historiquement inédits. Rien, au vu de l'histoire révolutionnaire récente, ne nous permet pour l'instant de l'espérer. Mais c'est peut-être depuis ce noir profond que nous serons tirés la force et la lucidité suffisantes.
Disciple who mirrors my own image.